Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 8 août 2026. On se retrouve pour les archives de l'architecte, épisode 17 et le récapitulatif de l'actualité financière de cette semaine avec Wall Street, nouveau record, le S&P 500 clôture à 7 757 points. Sursaut d'optimisme après deux semaines qui ont été des plus complexes. Les marchés au niveau de leurs indices valident de nouveaux plus hauts historiques avec sur la semaine le S&P à plus 3,6%, le Nasdaq à 5,2%, très gros. Grosse semaine pour la tech et enfin le Dow Jones à plus 3%. Le moteur reste très largement la technologie et les publications des grandes entreprises qui continuent de surprendre positivement. Parmi les 436 sociétés du S&P 500 ayant publié, 85% ont battu le consensus attendu par les analystes. Des emplois détruits aux États-Unis, tout n'est pas si rose avec les emplois non agricoles moins 23 000 par rapport au plus 80 000 attendus. Un taux de chômage malgré tout en baisse à 4,1% par rapport à 4,2% précédemment. C'est le paradoxe du marché. Croissance de l'emploi faible, moins de hausse de taux à l'horizon, baisse des taux longs et une hausse des actions. Probabilité de hausse des taux de la Fed d'ici à septembre, 44%. Là aussi en baisse substantielle depuis les 55% de la semaine dernière. Wall Street privilégie désormais une Fed moins agressive par rapport à une économie qui ralentit. Hors commodités et obligations, le Treasury 10 ans aux États-Unis est revenu à 4,64%. Là aussi, beau recul, les taux longs dégonflent au profit des actions de la tech. Le pétrole, pour sa part, en détente majeure sous les 80$ le baril. Attention malgré tout au détroit d'Hormuz. Grosse semaine pour le gold, plus 7%. Les futures clôturent à 4 400$ l'once. La prime reste importante par rapport à l'inflation et le risque géopolitique, cette incertitude du côté justement de l'Iran et les États-Unis. L'argent progresse également de plus 3% ce vendredi. L'Europe n'est pas en reste, aussi sur les records. L'Eurostoxx 600, porté par des secteurs comme la tech, santé, minière et assurance. De très bons résultats participent à ce mouvement qui est malgré tout organique. Et enfin, le SOX, indice des semi-conducteurs, est toujours à plus 70% depuis le début de l'année. Malgré tout, 15% sous son sommet, démontrant un début de rotation sectorielle avec le marché qui est punitif si les résultats ne sont pas extraordinaires, voire même parfois on a de très bons résultats et le titre recule de moins 5 à moins 10%. Du côté Bitcoin, crypto, il latéralise le BTC depuis deux mois, donc on va avoir un mouvement d'ampleur qui devrait intervenir sous quelques semaines. Alors, quelques semaines, c'est vaste, je dirais 2 à 4 semaines. D'ici la première quinzaine de septembre, la rentrée est souvent un petit peu tumultueuse et toujours sur fond, comme ça, du cycle de 4 ans, de la saisonnalité, etc. En général, ça a compté du 15 août que les marchés du 15 août à la fin septembre ont tendance à être un petit peu plus chahutés. Alors, personnellement, si les deux dernières semaines nous donner un peu de grain à moudre justement pour une potentielle correction un peu plus marquée. On voit que le marché n'en a que faire et continue de pricer très agressivement le côté de la tech et qui jusqu'ici a fait un rebond majeur mais qui pourrait faire penser quand on observe un petit peu l'analyse technique à un rebond du chat mort, le fameux dead cat bounce. Donc c'est difficile à dire dans cet entre-deux si on est avec le S&P et le Nasdaq qui viennent de faire des nouveaux points hauts sur un appel contre appel en devenir ou bien si on est en train de s'extirper de nouveau pour une progression qui continuera encore plusieurs trimestres. C'est là où il va falloir être assez prudent autour de cet automne. Attention toutefois également pour les cryptos en particulier, ça restera dépendant aux réactions de la Fed et nous n'avons pas eu bien entendu le Clarity Act qui a été validé autour de cette deadline donc qui était hier le 7 août. Il parle désormais de la rentrée mais comme vous le savez d'ici novembre on va avoir notamment et bien pour la présidence Trump les midterms donc c'est probablement pas le moment opportun justement pour aller trop tirer la couverture du côté des cryptos qui reste malgré tout pour cette administration en particulier un sujet et un enjeu majeur. Semaine prochaine, on a le gros rendez-vous mercredi avec l'inflation, le CPI des États-Unis. C'est vraiment ce qui va déclencher dans un sens ou dans l'autre. Le consensus attend 3,4% pour un core CPI à 2,5%. Le PPI jeudi et vente au détail vendredi. Donc deux scénarios post-CPI ce mercredi 12. Positif s'il arrive inférieur ou égal aux attentes avec un combo de rêve pour le marché, emploi faible, inflation qui baisse, Fed moins agressive, baisse des taux longs, continuation potentielle du rallye action, négatif si le CPI est supérieur aux attentes, emploi faible, inflation élevée, début de configuration stagflationniste non anticipée par le marché, potentiel décrochage. On part sur l'analyse technique, on va faire le petit tour de ce qui s'est passé multimarché cette semaine avec un SOX en effet qui a rebondi assez furieusement puisque depuis le point bas de la semaine dernière ici sur le Philadelphia Semiconductor Index où on était à 10 440 points, on a déjà récupéré 18%, donc un rebond qui est un rebond fort mais qu'on a déjà observé sur bon nombre d'autres marchés, donc il faudra quand même faire attention vu que l'indice phare, le Nasdaq, lui, est également un petit peu en retard par rapport au S&P 500 et ça accrédite d'autant plus la thèse que pour l'instant, premièrement, oui, l'argent a besoin d'être investi et d'aller quelque part et ce quelque part, vous l'avez vu depuis plusieurs trimestres, c'est l'IA, la tech, les semi-conducteurs et tout ce qui va bien. Mais d'un autre côté, on a le S&P qui nous dit, moi je fais un nouvel ATH pendant que la tech est un petit peu en retrait et c'est tout à fait normal puisque là aussi, l'économie ne peut pas tourner exclusivement et ad vitam autour d'un seul sujet. Donc ça, pour l'économie en tant que telle américaine, c'est plutôt positif de petit à petit avoir d'autres secteurs qui se remontrent séduisants quelque part et notamment on pense souvent au secteur value que beaucoup surveillent. Comme on l'a vu également en introduction, que ça soit le Stoxx 50 ou 600, l'Europe n'est pas en reste, donc ça fait plaisir. Nos bons vieux ETF monde, le CW8, WPEA, etc. sont également dans le vert. On est à 700 € pour le CW8 et 7,050 € pour le WPEA. Le CAC 40, pareillement, a clôturé donc sur un nouvel ATH, 8714 pour pas dire 15, puisqu'on est plus proche de 15 que de 14 pour le coup. Mais voilà, on a la France qui continue également d'avoir certains secteurs qui sont payés et d'autres qui nous font des appels contre appels, notamment au niveau du secteur du luxe qui nous fait un petit peu souffrir ces derniers trimestres. Le DXY, donc dollar américain face à un panier de devises, valide cette semaine le retour sous les 100 points, 99,6, tandis que le 10 ans US est en effet à 4,65. Ceci étant dit, on reste très haut perché et quand on regarde le 20 ans et le 30 ans, on est toujours à 5,2, donc c'est toujours pas méga reluisant, mais peut-être que d'ici la rentrée, on pourra avoir une économie qui se met dans une configuration un peu plus intéressante, que ça soit pour le meilleur ou pour le pire, puisque quand bien même on viendrait à avoir une correction d'ici cet automne, multimarché, ça serait du positif pour la suite, en tout cas pour nous investisseurs qui espérons avoir des prix plus bas pour pouvoir rentrer toujours sur des sociétés qui offrent de temps en temps des décotes qui, lorsqu'il y a des cracks de marché, sont des décotes qui sont irrationnelles, de même que parfois les marchés à la hausse actuellement peuvent paraître également irrationnels. En tout cas, le VIX, l'indice de la peur et de la volatilité du S&P, ça fait pas mal de temps qu'il travaille malgré tout sur une zone relativement basse. À chaque fois qu'on essaie de sortir un petit peu, ça ne prend pas, donc on n'a pas un marché qui a envie de se faire peur pour l'instant, mais dès lors qu'on reviendra travailler un jour, et ça arrivera tôt ou tard, entre 35 et au-delà sur le VIX, vous saurez que sur ce pic de volatilité, très certainement, ça vaut le coup de commencer à regarder pour potentiellement faire vos petites emplettes. Il y en a un qui ne déçoit pas d'un point de vue technique et qu'on avait suivi ces dernières semaines, ça fait plaisir quand ça se passe comme ça. Ça se passe pas toujours comme ça, puisque comme on l'a vu pour le S&P 500, peut-être on avait trop anticipé, en tout cas de mon côté, un potentiel décrochage, comme je vous l'avais montré précédemment, jusqu'à un retour des 7000 points ici, et notamment la bougie de la semaine dernière. Si elle n'avait pas été ravalée entre-temps, ça aurait été vraiment parfait au cours de ce mois d'août de voir les 7000 points pour le S&P. Donc il y a des choses qui fonctionnent, d'autres non, et il est bon d'y revenir et de comprendre pourquoi nos propres anticipations et nos propres biais nous font faire régulièrement des erreurs, justement. Sinon, tout le monde serait milliardaire, vous vous en doutez bien. Le gold, 4341 au contact de la moyenne mobile 50. Tout ce qui se trouve entre 4350 et 4400 plus est une zone de résistance pour le king des métaux précieux. On est dans la même configuration pour le silver. L'argent, après être venu travailler à 54,82, on est de retour à 63. On a touché dans la semaine 65. Et on a une moyenne mobile 50 autour de 66. Donc, configuration assez analogue. Les oscillateurs ont fini de bien purger. Est-ce que l'automne va permettre de relancer du côté des métaux précieux? Je vous en laisse seul juge de votre côté et seul décisionnaire surtout. 2190 milliards pour le crypto total avec des stablecoins qui continuent de latéraliser. Donc, pour l'instant, statu quo. On n'est pas si mal. Ça fait vraiment deux mois qu'on latéralise autour de cette fameuse moyenne mobile 200. Est-ce que tel que sur les bear markets précédents, après avoir cassé comme ça pendant très longtemps la volatilité, on fait le dernier décrochage qui nous conduirait du côté du crypto total quelque part autour de 1500 milliards et du côté de Bitcoin, eh bien quelque part autour de 50 000 dollars. En tout cas, c'est une résolution qui, dans un sens ou dans l'autre, va nous empiler plus ou moins 10 000 du côté de BTC d'ici septembre, maximum fin septembre. Soit on se retrouve à 70, soit on se retrouve à 50. Mais là, au vu du temps qu'on aura passé justement pendant plus de 8 semaines et peut-être 10 si on continue donc tout ce mois d'août à latéraliser, le mouvement qui va en résulter sera un mouvement très impulsif du côté de Bitcoin. ETH se laisse vivre au même rythme que BTC, bien entendu, 1916. Ce qui s'est passé la semaine dernière au niveau de la proposition de l'EIP qui voulait un petit peu tailler dans le lard au niveau du staking à partir du moment où il y avait trop d'Ether staké, ça a mis un petit peu un vent de panique sur des EtherFi, sur des Lido et sur quelques autres, pas forcément du côté de Ether, qui aurait pu se prendre une méga claque supplémentaire, mais voilà, ça sera très certainement pas voté puisque l'immense majorité de la communauté n'est pas pour, mais c'est quelque chose qui a le mérite de nous rappeler que quand on investit sur quelque chose comme ça, sur lequel potentiellement une décision, quand bien même ce serait une décision communautaire, peut changer l'aspect monétaire, peut changer l'éthos ambiant des choses, etc., c'est quand même quelque chose qui, pour nous, d'un point de vue de l'investisseur, du côté de Bitcoin, par exemple, n'est pas censé arriver. Alors que du côté de Ether, on a l'impression que justement, sous certaines conditions, cela pourrait se réaliser. On a Iron qui reprend plus 9. Belle défense du support des 28-30$ la semaine dernière. Déjà de retour à 41$. Donc là aussi, faites bien le distinguo dans les treasury companies, les minières, les Coinbase, les machins, les bidules liés à l'écosystème, de ceux qui ont pivoté au niveau IA en termes de puissance de calcul et qui sont très largement récompensés au niveau de leur graphe, comme vous le voyez par exemple avec Iron, de ceux qui sont en train de se laisser complètement mourir et potentiellement on parle de Marathon Digital ou quelques autres. Je sais pas, Riot, voilà, Riot peut-être ça se tient un petit peu mieux, mais quand on compare à des TerraWolf qui sont extrêmement haussiers, à des Bitfarms qui, bon, peut-être on est plus dans le mood de Riot, mais c'est sans commune mesure, voilà, avec ceux qui vraiment ont pivoté IA, on le voit du côté de Cypher, on le voit du côté de Iron, on a des graphiques quand même qui sont somme toute assez différents. En parlant de Coinbase, 153-154$ qui continue de défendre le support, pareil, ça fait 2 mois qu'on casse la volatilité, le titre donc, quand il sortira d'ici, une fois qu'il s'affranchira par le nord des 190-210$, on a la petite résistance dynamique des 225$ où nous attend la moyenne mobile 50, mais à partir du moment où il est au-dessus de 200$, ça veut dire qu'on va partir très fort vers le nord. A contrario, si on perd les 140$ qui est un énorme support pour Coinbase, on le verra beaucoup plus bas, quelque part potentiellement autour des 100$. Belle semaine également pour Circle qui finit à 5,36 dans une zone relativement resserrée entre 58 et 70$ dans laquelle il travaille depuis un mois et demi. C'est une configuration aussi qui est plutôt clean pour Circle qui ces derniers temps a validé qui plus est le potentiel de devenir un pseudo-banque, etc. aux États-Unis. Donc quelque chose à surveiller je pense pour la suite. MicroStratégie qui malgré ses carabistouilles court terme, là aussi latéralise dans un mouchoir de poche depuis un mois et demi entre les 80 et 100$. Donc peut-être aussi une configuration à surveiller par la suite, mais attention, ça reste ça de la nitro dans votre portefeuille, bien entendu. Take-Two qui nous a fait une belle jambe hier sur l'annonce donc d'un teaser amélioré. Donc ils vont montrer du gameplay, etc. Ça arrivera autour du 25-26 août. Entre le 24 et le 26, j'ai plus la date en tête. Ça sera sur Netflix pendant quelques heures avant, avec une exclusivité, d'être poussé du côté de YouTube. Là aussi, voilà, les réseaux sociaux de suite s'y sont mis. Et on a Take-Two donc, qui également ont annoncé avoir beaucoup plus de précommandes que ce qu'ils pensaient en faire. Déjà que le chiffre était haut, donc c'est très certainement ce genre de spéculation qui a été salué à court terme par le marché. On a toujours CRM qui, depuis un mois et demi, nous fait quelque chose de plutôt sympa. Donc Salesforce à surveiller par la suite, qui arrive sur une zone dure comprise entre les 193 et 208$. Robinhood, ça continue de se chercher, mais on n'est pas si mal en vrai hein, par rapport à l'action de prix ici à court terme. Donc pour ceux qui l'avaient payé, notamment autour de cette zone de 65$, je pense, pour ceux qui sont dans ce train-là, eh bien qu'on n'est pas si mal. Et pour ceux qui ne sont pas encore dedans, à vous de voir, on est sous la moyenne mobile 50. On est malgré tout, voilà, on commence à être assez loin du support des 60-65. Et si décrochage il y avait, on est assez loin aussi partie de la moyenne mobile à 200 semaines à 46$. Donc faites attention à vous, on a quand même des intervalles importants en cas de volatilité exacerbée. Il y a Tesla qui a été payé pas très loin la semaine dernière de sa moyenne mobile 200. Elle était à 283$. Le marché a décidé de payer à 298, de retour à 328. Ceci étant dit, Tesla qui est dans une transition assez importante et notamment par rapport à SpaceX qui a été introduite en bourse. Aujourd'hui, je pense que le marché a bien du mal à pricer cette action, tout simplement. Novo qui s'accroche à son support, donc semaine là aussi de rattrapage après avoir touché 43,90 en clôture à 47,26 au contact de la moyenne mobile 50 semaines. Belle semaine également pour Nvidia, 224$. Semaine dernière, on touchait la moyenne mobile 50 à 190 et le marché continue de payer, bien entendu, les leaders. IBM qui, après avoir touché il y a deux semaines de ça la moyenne mobile 200, il avait même légèrement franchi à la baisse sous les 200$, a repris également de la ferveur, donc à 237, avec une première zone de résistance importante sur la zone sur laquelle il se trouve actuellement. On va voir si ça passe autour de 238$. Si jamais ça passe et ça fera office de médiane de range, on visera la seconde résistance dynamique autour de 270$ ou attend la moyenne mobile 50 semaines. Microsoft qui continue de s'arracher avec même un gap de rupture entre les deux dernières bougies, 465-475. L'action se négocie à $500 en fin de semaine, en un mois et demi maximum, deux mois, elle a progressé de 43%. Donc là aussi, voilà, c'est quelque chose qu'on avait mis en avant et que j'avais rentré en portefeuille lorsqu'on est venu, pas forcément pile poil à 350, je crois que j'ai payé ça 360 pour ma part, mais ça fait plaisir quand on fait du stock picking et que ça se réalise ainsi, chose qui n'est pas tout le temps garantie puisque choisir ses propres actions, c'est ce qui se cache derrière ce terme un petit peu barbare de stock picking en anglais, choisir vraiment comme ça, on pioche quelque part, ça n'est pas toujours reluisant et on vous fera un sujet d'ici l'automne justement pour démontrer que les particuliers à ce jeu-là ne sont pas justement très, et j'en fais partie, doués pour choisir les meilleures actions hors période de crack, puisque quand on nous offre, comme au moment du crack Covid, des moins 50% de partout, théoriquement, vous pouvez à peu près quasi tout payer, en tout cas sur les grosses sociétés, et en espérant derrière récupérer un gain qui sera un gain plutôt substantiel. Hors période de crack, dans des périodes justement de volatilité positive et comme on a aujourd'hui sur la tech, c'est un peu plus difficile justement de faire ces petites emplettes et derrière de tenir la distance, de tenir le cap. Donc quand ça se réalise comme ça, ça fait plaisir. Mais je vous invite à considérer, bien entendu, de votre côté, que l'immense majorité du temps, les particuliers ont plutôt tendance à se planter justement quand ils font leur propre choix d'action. C'est pour ça aussi, par effet de bord, que les ETF se sont montrés de plus en plus séduisants ces dernières années. Je veux dire, il n'y a rien sans rien. On se prend beaucoup moins la tête. Ils sont auto-nettoyants. On a une seule ligne. On achète un petit peu de X entreprises au travers de la planète, ce qui peut correspondre quand même à beaucoup, beaucoup plus de profils, je pense, de gens qui s'intéressent à la bourse plutôt que de ceux qui vont passer des dizaines d'heures par semaine pour lire des rapports et se plonger totalement dans ce fameux terrier du lapin blanc. On a PayPal qui continue de nous faire une configuration plutôt sympa après avoir travaillé donc depuis un trimestre autour des $40. De retour au-dessus de la moyenne mobile 50 à $60, on a la MM 200 à 66 avec des points hauts de 2024 à 92,93. On vient d'un ATH qui date de 2021 au-dessus de $300 pour PayPal, à voir par rapport au rachat, etc. et toutes les spéculations qu'il y a autour. Au niveau des actions côté en euros et par la suite de la France également, on a STMPA qui nous fait une semaine pas dégueu. 48€ à plus 3,16%. Le 0,5 a été payé par le marché ici à 43€. Donc à voir pour la suite également Rémy Cointreau qui petit à petit essaie voilà, de poser son point bas. On est dans un grand range. On a potentiellement une petite épaule tête-épaule en devenir ici qui est en train de se réaliser avec depuis un mois le travail au-dessus de la moyenne mobile 50. En premier lieu, on visera les 62€ pour Rémy Cointreau et ensuite autour de 80 à 85€ où attendra la moyenne mobile 200. Là aussi, on a un ATH très lointain de décembre 2021 à 215€. On a également Dassault Systèmes qui, après avoir proposé un truc plutôt sympa ici depuis un petit trimestre, nous pousse la moyenne mobile 50 cette semaine. On va voir si on arrive donc à franchir cette zone dure des 23 à 25€ pour Dassault Systèmes. Pareil pour Orange qui consolide au-dessus de la moyenne mobile 50 depuis un mois, entre 15 et 17 euros, à voir pour la suite pour Orange. On passe du côté des altcoins crypto, shitcoin, certains les appelleront, Natao BitTensor à 197$ sur support, entre 190 et 215$. Solana toujours en contraction. Alors on latéralise sous un point dur ici, ce qui fait qu'on continue d'y coller, etc. Mais voilà, on n'a pas de grande ferveur du côté de Solana. J'ai l'impression également que petit à petit, au fur et à mesure que notamment Hyperliquid a pris des parts de marché et de l'attention, puisque c'est un marché, souvent les cryptos, qui est un énorme marché de l'attention, eh bien Solana voilà, se laisse un petit peu vivoter sur ce bear. Ceci étant dit, quand on prend les points extrêmes, c'est loin d'être catastrophique. C'est un recul de 80% pour Solana. Alors, quand on parle de bourse, moins 80%, on serait en train de dire que c'est catastrophique. Mais quand on parle de crypto-monnaie, les bear markets ont tendance à donner du 90, 95, 99 à la baisse. Donc globalement, c'est un bear qui se passe plutôt pas mal pour Solana. Hyperliquid s'est fait repousser dès lors qu'il a essayé de passer donc 57-58$. On va voir comment ça va se matérialiser d'ici la semaine prochaine. Et de toute évidence, les alts, hein, comme on disait la dernière fois, à part des BNB qui, à la fois contre Bitcoin et contre le dollar, se comportent pas mal, il n'y a pas grand-chose qui, à court terme, donne envie de passer immédiatement à l'achat. Et d'autant plus qu'on a toujours cette petite épée de Damoclès jusqu'à l'automne de savoir si c'est point bas, pas point bas du côté de BTC. On clôture avec l'Asie. Nintendo qui nous pousse une très belle semaine, 5%, et qui pourrait venir la semaine prochaine chercher sa moyenne mobile 200. Donc on va voir comment ça va se passer, mais ça se passe plutôt pas mal depuis un mois pour Nintendo. Alibaba qui nous a fait un peu une semaine là aussi de gap rupture entre la semaine dernière et cette semaine. On va voir s'il a le jus pour aller chercher, notamment sur le NICE par la suite, les 192$ que compose la moyenne mobile 50. Le Nikkei pour le Japon nous a fait un très beau rebond. Donc il avait perdu son support la semaine dernière, ça a été rattrapé et immédiatement on repart. C'est un petit peu Nasdaq-like, j'ai envie de vous dire. C'est d'ici la fin du mois d'août où on va voir si c'était juste justement le rebond du chat mort ou si l'on repart façon S&P 500 vers de nouveaux points hauts. Le Shanghai Composite nous fait également 3 semaines de hausse depuis les 4350 points. On reprend la MM50 à 4581 cette semaine. On a Xiaomi qui nous a fait une semaine plutôt timorée, voire négative, quand bien même vendredi il clôture légèrement dans le vert. Ça s'est pas mal fait repousser depuis les 32-28 en direction des 27 cette semaine. Le Japon 20 ans en progression mais latéralise. Le Topix toujours pour le Japon plutôt positif. Donc ça suit un petit peu finalement ce qui se passe aux États-Unis. On a Samsung qui, la semaine dernière, nous avait fait une bougie de ravalement complètement folle et qui, cette semaine, a clôturé à l'équilibre. Le 30 ans est autour de 3,9 pour le Japon. Et enfin, le Kospi qui, si la semaine dernière, pareil, on a eu une bougie de rattrapage complètement folle et c'était donc dû, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir d'ailleurs ce week-end, la vidéo de Xavier Delmas qui parle du fond de ce petit jeune-là, ce petit génie de 24 ans, situational awareness, qui donc avait 40 milliards sous gestion ou je ne sais pas combien. Il a fait du levier x4 du côté de la tech des semi-conducteurs, ce qui pendant un temps lui a offert plus de 400% de performance à son fonds. Donc bien entendu, tout le monde venait mettre du fric là-dedans. Et derrière, il a revendu à Citadel et consorts, donc des beaucoup, beaucoup plus grosses baleines que lui, pour justement une décote de moins 70%. Enfin, si vous avez suivi un petit peu cette histoire, vous saurez de quoi je parle. Pour ceux qui ne savent pas, Xavier Delmas a très bien décortiqué ça pendant un petit quart d'heure du côté de sa chaîne. Et donc, c'est ce qui explique la volatilité du côté de la Corée, qui eux-mêmes sont un indice où il y a énormément de leviers. Et donc là, pour l'instant, pareil, on a posé les choses, on a récupéré la semaine dernière, etc. Mais ce n'est pas un graphique qui, fondamentalement, en tout cas à court terme, est engageant. Et d'autant plus que si on continue d'avoir du levier, notamment ceux qui se seront fait liquider pour essayer de se refaire, c'est des moments où certes, les Citadel, les Goldman Sachs, les JP Morgan et compagnie sont en train littéralement de se frotter les mains, mais ils sont en train justement de bousiller complètement les portefeuilles de millions de petits porteurs. Et il ne faut pas oublier que la finance, malgré tout, est assez acerbe d'un point de vue humain et a tendance à créer des richesses justement sur parfois des drames qui sont tout aussi importants. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de week-end et on se retrouvera au cours de la semaine prochaine. Et il y aura bien entendu le sujet très prochainement autour des obligations, puisqu'on essaie voilà, de vous préparer un petit sujet autour de ça. Restez connectés. contactez également. Les formats longs reviennent d'ici la rentrée et on compte sur vous donc pour votre engouement, vos commentaires, vos pouces et toute forme d'intérêt que vous pourrez manifester autour de ces formats. Très bon week-end et à plus. Ciao, ciao.